Radio Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. Mai 2023, une date importante puisqu'elle va marquer effectivement tous les projets résidentiels, tous les porteurs de projets. On va vous parler crédit. C'est le 49e numéro de votre grand rendez-vous. Et pour tout savoir, notamment sur le logement, vous avez la séquence Ça vous concerne que vous aimez tous les mois. Notaires, avocats, experts vont se succéder pour vous donner les tuyaux sur vos projets. Toujours accompagné de mon fidèle complice depuis 49 numéros, et oui, c'est Guillaume Chazoulière, rédacteur en chef de Capital.fr. Salut Guillaume.
On parle de crédit aujourd'hui, et effectivement, on a deux invités en la personne de Olivier Landory, président de CAFPI, et Guillaume Autier, président de Meilleur Taux. Donc deux courtiers en crédit immobilier pour faire le point sur la situation, on le sait, au plus complexe sur le marché du crédit, les points de blocage, on attend des décisions pour débloquer le marché, mais avant cela, nous ferons le point sur les profils bloqués et puis les solutions qu'on peut négocier, avoir, ou les prêts complémentaires qu'on peut souscrire pour faire passer certains dossiers.
Alors, on va essayer de vous donner les bons plans pour essayer de trouver des solutions. On sait que ce n'est pas facile, surtout en ce moment, bien évidemment. Et au programme également, on répondra à toutes vos questions sur le club Facebook Les Proprios, géré par nos amis de Capital et Radio Immo. Le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Eh bien voilà les amis, nous sommes partis pour justement cette partie grand témoin. Bonjour Guillaume Autier.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Olivier Landreby. Vous êtes respectivement président de Meilleur Taux et président de CAFPI. Inutile de dire qu'on a les poids lourds du courtage immobilier en France. Alors les taux de crédit font beaucoup parler en ce moment, bien évidemment. C'est un secret pour personne que ça devient un peu compliqué, que les taux, les points de base ont augmenté de façon assez exponentielle. Il y a même des éléments multifactoriels qui se sont ajoutés, notamment sur le parcours résidentiel. On va en parler avec vous et comme c'est l'usage dans notre grand rendez-vous de l'immobilier, c'est Guillaume qui va vous poser la première question.
Merci. Allez, on se jette à l'eau. Une question simple pour commencer. Vous prenez la parole, qui veut. La hausse des taux, donc on le sait, enclenchée, freine l'accession, enclenchée depuis plusieurs mois maintenant, on le dit bien une bonne année. Freine l'accession à la propriété, mais donc un petit point. Où on en est aujourd'hui sur les taux moyens pour emprunter sur 20 ans et sur 15 ans?
Alors, on peut dire, pour faire simple, on vient de dépasser les 3%. Donc, il y a à peu près 15 jours, on suit ça de très très près, comme tous les acteurs. On vient de dépasser en moyenne...
Sur quelle période? Sur une moyenne.
Alors, sur tous les profils, toutes les durées, toutes les régions, on vient de dépasser 3% il y a 15 jours. Et d'ailleurs, le dernier chiffre qu'on a publié, il y a 4 jours, c'est 3,1%. Ça, c'est le taux nominal du crédit. Et le TAEG, on y reviendra peut-être après, c'est-à-dire avec tous les coûts pris en compte, notamment l'assurance, il est à 3,74. Alors, comme je le disais, c'est une moyenne. Ça peut dépendre de la maturité. Typiquement, de très très bons profils, on y reviendra je pense dans un instant, peuvent espérer être en dessous de 3% à 15 ans et même à 20 ans, mais c'est quand même de plus en plus rare. Et donc on voit que le taux d'usure, le taux maximum a été porté à 4,5 là, depuis le 1er mai. Et donc la tendance à la hausse, il faut être clair, elle se poursuit. Elle a été très très rapide depuis 6 à 9 mois. Et on voit que elle s'est très légèrement ralentie, mais en fait elle se poursuit. Et donc on est quand même parti pour rester durablement au-dessus de 3%.
Et sur 20 ans, la durée préférée des Français, on le dit souvent, on emprunte sur 20 ans, c'est combien, Olivier?
Quand je regarde sur les offres émises par les banques ces 10 derniers jours, on est entre 3,20 et 3,30 maintenant.
Si on analyse bien là, sur les 18 mois, c'est une augmentation depuis 400 points de base sur les taux de crédit. Est-ce que c'est inédit ou
200 points de base. On était, on va dire, en gros, au début de l'année 2022, on tournait autour de 1%. Alors, les très, très bons profils avaient du 0,8, les profils moins bons, 1,20. Et en effet, ces 200 points de base, à ma connaissance, c'est inédit. Je pense que le niveau absolu des taux dont on parle, il n'est pas non plus catastrophique. C'est-à-dire, des taux à 3, c'est des taux qu'on a connus il y a une quinzaine d'années en France. Et puis, si on prend vraiment une période très, très longue, sur les 50 dernières années, on a été beaucoup plus souvent au-dessus de 3% qu'en dessous de 3%. Donc, en réalité, 3% n'est pas un drame. Par contre, ce qui est inédit, c'est exactement ce que vous venez de dire, Sylvain. C'est la rapidité avec laquelle on a bougé. Et d'ailleurs, sur ce marché-là, finalement, les niveaux absolus peuvent avoir un impact. Mais ce qui a surtout un impact, c'est l'évolution. Le fait qu'on soit passé de 1% à 3% aussi rapidement, parce que ça a des effets de marché, ça a un impact sur les acteurs. Le premier impact, c'est que on a des emprunteurs qui attendent un petit peu. Quand les choses bougent, ça crée toujours de l'attentisme. Et puis le deuxième impact, et ça on va y revenir, parce qu'Olivier et moi on s'est beaucoup mobilisés là-dessus, c'est un impact réglementaire. Quand vous avez un marché qui va très vite, et les règles, la réglementation, elle va moins vite.
Bien
et
sûr.
Ça, c'est un problème.
Un petit élément pouvoir d'achat, parce que justement, vous l'avez...
Alors, je réponds là-dessus. Ouais. En pouvoir d'achat, entre emprunter à 1% comme on pouvait le faire il y a un peu plus d'un an et emprunter à 3,20, 3,30 comme on peut le faire aujourd'hui, c'est 25% de plus sur la mensualité à 25 ans.
Et comme le disait tout à l'heure Guillaume, en 2013, finalement, on retrouve les taux de 2013. Alors, et hors micro, vous aviez fait un petit exercice.
Exact.
Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 2013
On retrouve les taux de 2013, sauf qu'en 2013... Enfin, depuis 2013, les prix de l'immobilier ont pris 28%.
Et oui, dans le même temps, taux, mais pas avec
alors,
les
attention
prix.
Quand même, dans le même temps, les salaires ont pris 19%. Et donc, on voit qu'il y a quand même eu un décalage d'une dizaine de pourcents entre le rythme d'augmentation des prix de l'immobilier et des salaires. Et donc, c'est cette correction d'une dizaine de pourcents qui nous permettrait de retrouver à peu près le même équilibre qu'on avait en 2013. La difficulté, c'est que la hausse des taux est intervenue de façon tellement brutale que les prix n'ont pas eu le temps matériel de s'ajuster.
Alors cette hausse des taux, elle est à conjuguer effectivement vers une hausse assez exponentielle de l'inflation, bien évidemment. Donc on peut dire à ceux qui nous écoutent que ça vaut toujours la peine d'emprunter et de porter les projets. Il y en a même qui considèrent que la pièce que qu'avaient gagné les Français durant les dernières années, elle a été perdue effectivement par l'augmentation des taux et la perte effectivement du pouvoir d'achat, vous l'avez indiqué. Question Guillaume Mottier, quels sont les taux négociables pour les meilleurs profils et lesquels sont-ils sur ces mêmes durées ? Concrètement, est-ce que vous, les banques, ont des vraies marges de manœuvre pour des très bons profils ou pas ?
Alors, il y a des marges de manœuvre. Il ne faut pas les exagérer, ces marges de manœuvre, parce qu'on est sur un marché dont le prix ne peut pas fluctuer beaucoup. En fait, à la baisse, tout simplement, il y a le coût de la ressource pour les banques. Les banques empruntent sur les marchés, donc ça représente un coût. Puis à la hausse, il y a la norme dont on parlait il y a un instant, qui est le taux d'usure. Donc, entre les deux, la capacité qu'ont les banques soit de baisser, soit au contraire d'augmenter. D'ailleurs, pour que les banques puissent baisser sur certains profils, il faut qu'elles puissent augmenter sur d'autres profils. Cette capacité à le faire, elle est sur le crédit immobilier assez réduite. On va dire qu'entre les très très bons profils et puis les profils les moins bons, il y a peut-être 50-60 points de base d'écart, pas plus. On va dire si le marché pouvait librement fonctionner, on aurait des écarts probablement plus importants, peut-être au-delà de 100 points de base. Donc au total, on va dire l'excellent profil, il peut peut-être viser en dessous de 3%, on va dire 2,8, 2,9, mais il ne va pas pouvoir avoir 2,5, c'est clair. On ne voit pas des profils, même excellents. Alors c'est quoi des profils excellents ? C'est des gens qui ont beaucoup d'apport, beaucoup d'épargne. Et puis il y a un troisième cas qui est en fait quand on est déjà client de sa banque, quand on a une antériorité dans la relation bancaire, ça permet souvent d'avoir de meilleures conditions. Mais ces très bons profils vont pouvoir négocier, vous voyez, 20, 30 points de base, certainement pas 50 ou 60 points de base.
Guillaume.
À l'inverse, on va revenir sur les profils bloqués aujourd'hui. Un exemple ou des exemples de profils bloqués, messieurs.
Je suis venu avec un exemple qui est un candidat à la primo-accession. Salaire modeste, on est à 1 700 € net par mois, la personne est seule. Un apport significatif, il est capable de mettre 12 000 € dans le projet et il cherche 120 000 € à emprunter. Il y a un an, un peu plus d'un an, quand les taux étaient au plus bas, on pouvait financer cette personne pour une mensualité de 493 € par mois. Ça le mettait à un niveau de taux d'endettement de 29%, donc le projet serait passé dans la plupart des banques. Aujourd'hui, avec les taux qu'on vous a cités, la même personne sur le même projet va être à 626 € par mois. C'est 27% de plus sur la mensualité. Et ça fait monter son taux d'endettement de 8 points pour atteindre 37%. Et là, il y a beaucoup de banques qui vont dire non parce qu'on est au-dessus du fameux 35% préconisé par les normes HTSF.
Là, c'est un cas type.
Alors, ça, c'est un cas type et c'est même un cas typique de primo-accession dont on sait qu'elle est la plus en panne. Je donne simplement quelques chiffres. Dans certaines régions, ne serait-ce que sur le neuf, on est sur du moins 40% avec une désolvabilisation de la demande importante. question sur justement à quoi vous attribuez cette augmentation inédite. Alors, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai jamais vu une augmentation aussi rapide des taux. Quoi vous l'attribuez, Guillaume Autier ?
Ah bah, je pense qu'il y a déjà au premier ordre tout simplement un phénomène de marché. Et le coût de la ressource, il est au premier ordre indexé sur en fait, le refinancement par la BCE. Et donc, le changement de politique monétaire, c'est le premier facteur. Alors, il y a des éléments en plus. On peut dire qu'on est dans un environnement français dans lequel eh bah, il y a peut-être une petite prime de risque. On voit que l'écart entre les taux français et les taux allemands, par exemple, a plutôt tendance à augmenter. Donc, on est dans un environnement économique dans lequel le taux de base, c'est-à-dire le taux de refinancement par les banques centrales, a augmenté. Le taux spécifique à la France a lui aussi augmenté. Et donc, ça explique au premier ordre. Alors ensuite, le deuxième élément, c'est que si on regarde spécifiquement ce qui concerne le crédit immobilier, je pense qu'on vient d'une période dans laquelle, eh bien, en effet, avec des taux à 1 et beaucoup de production de crédit qui a eu lieu, eh bien, les banques ont eu, de la part de leurs régulateurs, plutôt des injonctions de réduire un petit peu, la production. Donc ça, évidemment, quand on joue sur les quantités, on joue aussi sur les prix. Ça a aussi un impact. Mais il me semble que le phénomène de marché dont on parle, il est d'abord expliqué par le changement de la politique monétaire. Et si je peux revenir d'un mot sur l'exemple que citait Olivier, sans être trop long, Olivier a cité un exemple, on va dire, de primo-accédant, profil moyen, voire, on va dire, profil début de carrière, avec un salaire plutôt faible. Ce qu'il faut dire, c'est que l'effet réglementaire dont on parle, notamment le HCSF, on y reviendra, parce que c'est un acronyme barbare,
oui.
Mais qui a beaucoup d'impact, ça concerne aussi des profils beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus CSP+, oui. Et notamment, on en parlait au début, l'investissement locatif. Oui. On voit que de plus en plus de profils d'investisseurs locatifs, donc des gens qui ont encore un crédit sur leur résidence principale et qui veulent faire un investissement locatif, donc de très bons risques, en fait, on leur interdit d'emprunter, alors que, bah, fondamentalement, ils sont solvables et qu'ils auraient tout à fait les moyens de rembourser. Ça, c'est un phénomène inédit.
Y compris sur des opérations qui s'autofinancent, c'est-à-dire où le loyer suffit
à... On va emboîter sur le concret, et merci de m'avoir tendu cette perche. Vous avez eu une victoire tous unis sur la réforme du taux d'usure.
Hein. Petite victoire.
Voilà, petite victoire, mais pas quand même. Alors, conditionnellement parlant, le gouverneur de la Banque de France a la possibilité de déroger avec le taux d'usure en le mettant mensuellement, et ce pendant une durée maximum de 24 mois.
Sinon, il peut même en changer la formule s'il le souhaite.
Il peut faire ce qu'il veut,
vous avez... proposer ce qu'il veut au ministre pendant 24 mois consécutifs.
Alors, ça a été une victoire que vous avez menée de haute lutte. Et bien évidemment, elle a été enclenchée en début d'année. Question, est-ce que ça a amélioré les choses ou pas ?
Oui, ça a redonné...
Et sous-question, avant de commencer, rappelez quand même ce que c'est que ce taux d'usure. Et...
Le taux d'usure, c'est le taux réglementaire au-dessus duquel les banques n'ont pas le droit d'aller. Voilà. Et ça a redonné une certaine fluidité au marché. Là où, entre juillet et décembre 2022, on avait été contraint parfois de dire à des clients... repasser dans 2 mois, il faut attendre que le taux d'usure s'ajuste pour que la banque soit prête à prendre votre dossier.
Oui,
là, on leur dit repasser dans 15 jours. Donc ça redonne quand même de la fluidité au marché.
Donc ça a amélioré les porteurs de projets. Est-ce que ça a redonné du souffle ?
Un peu. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. On a beaucoup parlé du taux d'usure. On parle beaucoup maintenant du HCSF. Alors, même si on nous libérait miraculeusement de ces normes quelque peu inadaptées, il ne faut pas se mentir. Avec la vitesse de remontée des taux qu'on observe depuis 15 mois et qui n'a rien à voir avec le taux d'usure ou HCSF, de toute façon, la demande de crédit ralentirait. Hein, donc, je ne veux pas qu'on laisse penser que ces deux normes sont la cause de 100%
On a parlé de HCSF au Conseil à la stabilité financière. Est-ce que ça veut dire, Guillaume Mottier, que le HCSF a un pouvoir coercitif sur la politique ?
En tout cas, il s'en est doté hein, au début de l'année 2020, fin 2019, début 2020, donc avant le Covid, avant la hausse des taux. Ce Haut Conseil, bon, qui est, pour faire simple, quand même composé du gouverneur de la Banque de France et du ministre de l'Économie, sans faire injure aux autres membres, on peut dire que quand il y a ces deux personnes autour de la table, les autres ont un tout petit peu moins voix au chapitre. Donc c'est plus une façon de mettre en scène des décisions qui, en fait, sont prises par le gouverneur et le ministre de l'économie. Et donc ce Haut Conseil a décidé de prendre des normes pour réduire, et c'est totalement assumé, la production de crédit immobilier. Nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est que, on regarde le sujet comme le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est une règle qui fixe un prix maximum. Et donc, comme toujours, comme toute règle, il y a deux aspects. Il y a un aspect protecteur et puis il y a aussi un aspect empêcheur. C'est-à-dire quand on fixe dans un marché un prix maximum, ça évite aux gens de payer au-dessus de ce prix, mais parfois, les gens qui seraient prêts à payer au-dessus ou alors pour lesquels la seule façon d'accéder à l'emprunt serait de payer plus, l'effet de la règle, c'est juste de les en empêcher. Donc la règle, elle a toujours deux aspects. Et nous, on dit une chose très simple, quand le marché évolue, la règle doit évoluer. Donc on parlait de la mensualisation du taux d'usure. Ok, c'est très bien d'avoir pris une mesure de mensualisation. De notre point de vue, et sans avoir l'air trop critique, c'est arrivé 6 à 9 mois trop tard. Quand on prend une norme comme celle-là, qui a un impact sur les prix, il n'y a pas beaucoup de marchés sur lesquels il existe des règles sur les prix qui disent le prix maximum s'étend. Le crédit immobilier en est une. C'est juste tout à fait normal, tout à fait sain que cette règle s'adapte plus rapidement quand le marché lui-même évolue. Le HSF, c'est pareil. De nouveau, le Covid est passé par là, la hausse des taux est passée par là, et que de façon un tout petit peu aveugle, on se dise les règles du début de l'année 2020 doivent rester les mêmes, nous semble assez absurde. Et je dirais là-dessus, c'est même une question un peu philosophique. Je pense que la réflexion n'est pas de savoir quelles sont les autres bonnes règles par lesquelles il faut remplacer les règles actuelles. Je pense que dans le contexte actuel, le discours très simple qu'il faudrait que les pouvoirs publics aient, c'est faisons confiance aux acteurs. A priori, les gens qui empruntent pour acheter leur maison, c'est des gens responsables. Les banques sont aussi des acteurs responsables et qui savent ce qu'elles font. Faisons leur confiance. C'est le message très simple qu'on passe.
Une dernière question. C'est la même question. Donc, HSF, vous commencez à l'aborder, voir quelles sont les pistes que vous attendez. On sait qu'il y aura des décisions qui seront prises en début. Qu'est-ce qui pourrait fluidifier dans le changement de règle? Vous disiez tout à l'heure, le cas des investisseurs.
Pour moi, il y a trois choses à revoir. C'est la façon dont les revenus locatifs sont pris en compte, autoriser ce qu'on appelait le calcul différentiel, que la plupart des banques appliquaient avant HCSF. On les prend en compte, mais on les prend en compte dans le revenu global. Donc si je vais faire l'acquisition d'un appartement qui génère 1000 euros de loyer, je peux emprunter à hauteur d'un crédit qui va me générer 350 euros de remboursement mensuel et non pas 1000 comme avant. Donc ça change beaucoup de choses. Je pense que cette notion de plafond sur le taux d'endettement à 35% mérite d'être enrichi d'un regard sur ce qu'on appelle le reste à vivre. Être à 35% d'endettement, ça n'est pas la même chose quand on gagne 1700 euros net par mois comme le client que je prenais en exemple tout à l'heure, ou quand on s'appelle Lionel Messi. C'est un non-sens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les banquiers raisonnaient jusqu'à HCSF. Et puis, la dernière chose, moi, que je modifierais, c'est, vous savez qu'il y a un espace de semi-liberté qui est laissé aux banques dans le sens où elles peuvent faire 20% de dossiers dérogatoires à ces règles. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il y a des sous-limites à l'intérieur de ce 20%, notamment pas plus de 4% pour des projets locatifs. Quand on a vécu de l'intérieur la façon dont une banque fonctionne et la façon dont les décisions de crédit sont décentralisées dans une banque, ça n'est absolument pas opérant, c'est impilotable sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle les banques n'utilisent pas ces sous-limites, ne saturent pas ces sous-limites, parce qu'elles ne peuvent pas les piloter.
Et puis surtout, pourquoi faire simple
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on voit, et moi j'en ai fait un peu partie, l'administration française, dans ses travers un peu classiques, je dirais que les normes telles que Olivier vient avec son talent de les décrire, elles sont quand même assez caricaturales, de complexité, des ratios, des sous-ratios. J'hésiterais pas à la qualifier un peu de technocratique.
C'est très français et ça me rappelle une phrase de Georges Pompidou. Pourquoi emmerder les Français?
Voilà. C'est bien résumé.
Vous restez avec nous, Guillaume Mottier. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de Mirto et Olivier Landrevi, président de CAFPI. On ne va pas bouder notre plaisir. Nous avons les deux poids lourds du crédit immobilier en France pour la deuxième partie de l'entretien. Mais tout de suite, nous allons parler justement des tuyaux, des conseils qu'on vous donne avec Ça vous concerne en deux parties aujourd'hui. Et on va ensuite enchaîner avec vous et vous restez avec nous sur le plateau, notamment pour parler du prêt à taux zéro et les autres possibilités pour essayer si on peut d'augmenter sa solvabilité. Pour l'heure, voici les experts, ça vous concerne, et c'est tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver, comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Et voilà, le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Tous les mois, la séquence que vous aimez, agent immobilier, notaire, avocat, répond à vos questions. C'est aussi l'occasion de retrouver l'ami Vincent. Comment ça va, Vincent?
Buona sera, oui.
Oui, comment ça va?
Non, comment c'est pour internationaliser la chronique.
Comment est-ce dans la case? Voilà. Vous savez qu'on a une légende de l'immobilier sur le plateau.
Oui.
On a Dan Adler sur le plateau. Bonjour, Dan.
Bonjour, ça va?
Voilà, Dan et Laetitia Adler, les fondateurs de De Ferla Immobilier, la bonne adresse. Si vous voulez acheter un appart de fou à Paris, dinguerie comme dirait l'autre, si vous voulez aller sur le site. Vincent, on a posé des questions, c'est Annick qui a posé la question.
Annick qui pose la première question à notre agent immobilier Dan Adler sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Annick a acheté une maison en février 2023, elle n'a toujours pas vendu son ancien appartement. Elle s'interroge sur la nouvelle déclaration de biens immobiliers à remplir d'ici fin juin. Quel bien elle doit déclarer dans cette nouvelle déclaration, Dan ?
Ok, c'est assez facile en fait. Alors effectivement, depuis janvier, on a une nouvelle manière de déclarer. En fait, on doit déclarer tous ses biens et surtout, on doit donner le nom si jamais il y a des locataires dans l'appartement. Donc là, en fait, c'est assez simple. Elle a deux appartements. Elle en a acheté un qu'elle doit déclarer, qui n'était pas déclaré en 2022 puisqu'elle vient d'en faire l'acquisition. Donc ça, elle devra le déclarer. Elle a jusqu'au 30 juin, mais elle doit également déclarer son autre bien en mettant qu'il est donc libre pour éviter que de se faire taxer sur...
Les logements vacants.
Le logement vacant, effectivement. Il faudrait qu'elle... Elle explique au niveau du service des impôts qu'elle est en cours de vente pour éviter d'être taxée là-dessus. Mais c'est assez facile, il faut juste déclarer les deux biens. Le premier bien donc, qu'elle a depuis février en résidence principale et l'autre bien donc, qui est en cours de vente, qui est par définition une résidence secondaire, mais qui ne le sera pas et qui ne sera pas pris en compte lors de la vente. Elle n'aura pas de plus-value puisqu'elle est en cours de vente.
Et on rappelle, c'est jusqu'au 30 juin, je
c'est
crois.
C'est ça, exactement.
Alors, je crois qu'il y a une tolérance, ils ont été
c'est
sympas.
Ça, oui,
ils vont dire, on ne va pas trop emmerder les Français pendant quelques temps. Par contre, à partir de l'année prochaine, ça va être plus compliqué. Parce que on a une amende si on ne le fait pas.
Il y a une amende de 150 euros, ça c'est la première des choses. Mais ce n'est pas tant l'amende, en fait. C'est surtout, il ne faudrait pas que le bien soit requalifié comme une résidence secondaire pour payer de la plus-value. Là, c'est catastrophique.
C'est taxe d'habitation.
Taxe sur le logement vacant ou ce genre de choses. Mais après, objectivement, il n'y a pas de problème. Si elle fait les choses dans les règles de l'art, elle ne paiera ni de taxe sur le logement vacant, elle ne paiera pas de plus-value.
Alors, si c'est en SCI, je crois qu'il
c'est
faut
pareil.
Une 2044, hein, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Oui, c'est 2042
c'est ça,
ou 2044, selon le statut
de la
société.
C'est pas très compliqué quand même.
Ça, ce sont les formulaires des impôts.
Hein, c'est ça, exactement. Si elle a un doute sur le formulaire, je crois que le fisc répond au téléphone.
Oui, il répond. Mais là-dessus, vous pouvez les interroger assez facilement. Que ce soit sur les services en ligne ou par téléphone, ils répondent assez facilement. Ouais. C'est bien fait. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont dans ce cas de figure, qui ont acheté, qui revendent et qui n'ont pas encore revendu au moment de la déclaration.
D'accord.
Une question de Pierre. Il a signé un compromis, il est en attente de signer l'acte définitif. Suite à une visite de l'appartement, le locataire qui est aujourd'hui dans les lieux du bien qu'il convoite lui indiquait qu'un volet était défectueux à Pierre. Le propriétaire vendeur, est-ce qu'il a l'obligation de réparer avant la vente, Dan ?
Eh bien non, il n'a pas l'obligation.
C'est
une vente en l'état, en fait, quand vous achetez un appartement dans l'ancien. Donc autre que sur plan avec un promoteur ou autre, vous n'êtes pas face à un professionnel de l'immobilier. Le vendeur, en tout cas, n'est pas considéré comme un professionnel de l'immobilier et c'est une vente en l'état. Alors, pour parer un petit peu à ça, il y a tout un paragraphe quand vous signez une promesse ou un compromis sur les vices cachés. Un vice caché, ça ne peut pas être un volet qui fonctionne par un vice caché. C'est quelque chose que vous apprenez et qui est tellement fort qui fait que vous ne pouvez plus acheter le bien ou si vous l'aviez su avant votre acquisition, vous n'auriez pas acheté ce bien-là. Donc ça ne fait pas du tout partie de ce cadre-là. Par contre, il peut essayer de voir avec son propriétaire gentiment pour qu'il le répare. au préalable si le propriétaire vendeur est OK, c'est une négociation qui peut avoir lieu. Mais en tout cas, ça ne peut pas remettre en question ni l'achat et on ne peut pas contraindre le propriétaire vendeur à faire la réparation.
Ça restera donc en l'état. Voilà pour Pierre et Annick. Vous posez vos questions, vous aussi, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. On se retrouvera tout à l'heure et merci beaucoup, Dan.
Avec plaisir.
Une dizaine d'agences à Paris, Deferla Immobilier pour vos agences, deferla.com pour vous retrouver.
C'est ça, exactement.
On vous retrouve aussi sur Insta.
Insta, LinkedIn, Facebook, on est partout.
Tous les réseaux.
Voilà, ils sont partout, voilà, Deferla Immobilier. Longue vie au groupe. Merci beaucoup,
Merci beaucoup. Adler.
Voilà, un petit clin d'œil à Laetitia Adler aussi.
Avec évidemment. Plaisir, moi aussi, je vais faire un clin d'œil.
Voilà, et l'ensemble du groupe, on avance sur nos sujets pour ce numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite après ça.
Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, Orpi Territoire, avec Orpi.
Et voilà, les amis, chaque mois, on va dans les territoires. Et pour une fois, on va rester sur Paris. On va parler de trois arrondissements avec un associé de la coopérative Orpi. Parce que je rappelle qu'Orpi, c'est d'abord un esprit coopératif. 3e arrondissement, 19e arrondissement et 20e arrondissement avec Sacha Haroche. Bonjour Sacha.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Bien.
Alors, il y a un nouveau PLU.
Tout à fait.
Voilà. Tout à l'heure, hors antenne, vous nous disiez, vous preniez comme exemple un député qui s'appelle Julien Bayou, qui disait le point commun entre le Pays Basque, le 3e arrondissement et
l'île d'Oléron.
Et l'île d'Oléron.
C'est l'impact supposé être négatif du Airbnb sur Paris, enfin de la location meublée touristique.
Alors, est-ce que ça veut dire que le Airbnb dans le 3e arrondissement particulièrement, alors vous êtes, votre terrain de jeu c'est le 19e, le 20e et le 3e,
tout à fait,
est condamné à court terme ou pas ?
Ça serait un peu prématuré de parler d'une condamnation du Airbnb. Aujourd'hui, oui, on a bien l'impression qu'il y a une chasse et on cherche à limiter son impact parce qu'il y a eu, on comprend aussi qu'il y a des vides quartiers qui ont un peu disparu, il y a un esprit, un lien social qui s'est quand même effrité avec l'avènement du Airbnb, des crèches qui ont fermé dans certains arrondissements puisqu'elles ne se prêtaient plus à l'accueil de familles. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des... Justement, vous citiez Julien Bayou, mais il y a d'autres députés qui se sont attablés, qui se sont plutôt mis en avant l'impact négatif du Airbnb, avec notamment le DPE, aujourd'hui, qui n'est pas obligatoire d'être fourni avec le Airbnb. Donc, on cherche à l'imposer. On cherche à réduire le nombre de nuitées possibles de 120 à 90. On cherche à rendre plus compliqué le changement de destination. Maintenant... il y a quand même une certaine rentabilité qui est beaucoup plus intéressante qu'une location traditionnelle.
C'est très clair.
Le limiter, oui, il y aura une limitation et en vue des Jeux Olympiques, le condamner...
Disparaître, non.
Non, non, voilà. Non, je parlerai d'une limitation plutôt que d'une disparition.
Voilà, on va dire à ceux qui nous écoutent, il n'y aura pas de disparition, mais il y aura une limitation, un
tout
encadrement.
Tout à fait. On tout va à dire, fait. Mais que vous parliez du nouveau PLU où on veut mettre en avant des quartiers comme Le Sentier ou Montmartre qui sont vraiment concernés par l'impact du Airbnb, où la mairie de Paris veut mettre les holas et dire un moment stop, faut peut-être revenir.
Sur ce nouveau PLU, justement, là, alors c'est pas encore voté, c'est pas encore.
Tout à fait.
Mais l'idée, ce serait là de l'interdire dans certains quartiers. Quoi.
Tout à fait. On cherche vraiment à réguler son impact et à avoir la main dessus, disons, parce que là, ça, c'est le nombre de logements qui ont été mis en location meublée touristique.
C'est quoi multiplié. Les quartiers qui seraient concernés ?
Alors, notamment Sentier, Montmartre, des quartiers, disons, assez porté vers le tourisme et le Marais, notamment. Donc tout le Paris-Centre est essentiellement concerné par ce PLU. Maintenant, de parler d'une fin du Airbnb, non.
Bien sûr.
Mais, et vous, vous, en tant qu'agent immobilier, vous le voyez au quotidien
beaucoup d'investisseurs.
Les investisseurs qui vous demandent des rentabilités.
Des investisseurs, alors qui en plus revêtent différentes formes. Hein. Ça peut être des investisseurs privés. On parle de foncières aussi, on reçoit entre 12 et 15 appels par semaine pour nous demander des biens avec commercialité. Alors, on se doute bien que directement, c'est la location meublée touristique qui est visée.
Bah, bien sûr.
Donc, oui, on parle d'un contexte actuel quand même qui est un peu plus difficile au niveau bancaire. Les Airbnb, très souvent, les investissements pour les locations meublées touristiques, les paiements sont sans condition suspensive d'obtention de prêt. Parce que les gens savent qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a une réelle concurrence. Contrairement à d'autres marchés, le marché un peu plus traditionnel de l'acquisition dans l'immobilier résidentiel ancien, par exemple, les gens voient qu'il y a un peu plus d'offres aujourd'hui. Donc, ils se pressent un peu moins. Il y a une forme d'attentisme qui s'est créée.
Est-ce que c'est le cas sur votre marché naturel, sur les trois arrondissements sur lesquels vous opérez?
Mais par contre,
vous le sentez, vous avez plus d'offres?
On sent qu'il y a un peu plus d'offres, que les délais de vente se sont légèrement rallongés.
D'accord.
Mais à côté de ça, sur les appartements ou les biens qui se prêtent plutôt à la location meublée touristique, non, c'est des ventes qui peuvent se faire en moins d'une semaine.
À quel prix aujourd'hui? Dans ces arrondissements,
alors,
c'est quoi le prix du mètre carré?
Disons que par rapport à des prix traditionnels, on est déjà à 1000 voire 2000 euros de plus que le prix traditionnel dans ces quartiers-là. Donc un arrondissement,
un exemple,
on est rue Vieille du Temple, le prix peut osciller entre 12 et 14 000 euros du mètre carré. Il n'est pas rare de trouver un appartement ou un bien plutôt qui se prête à la location meublée touristique entre 15 et 16 000 euros du mètre carré. Encore une fois, sans condition suspensive d'obtention de prêt, puisqu'il y a une rentabilité intéressante.
En fait, les gens savent, les investisseurs savent que quand ils ont le produit, aucune clause suspensive pour l'avoir tout de suite.
Ah, ils n'ont pas le choix.
Et au prix.
Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de négociation. Oui, au-delà du fait qu'il n'y a pas de condition suspensive, il n'y a pas de négociation. Se vérifie en amont. Mais par contre, oui.
Tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, il y a un peu d'attentisme. On comprend avec l'augmentation des taux d'intérêt, bien évidemment. Mais ça ne vous frappe pas, vous, directement sur ces trois arrondissements?
Non. Alors après, nous, en plus, dans le 19e, 20e...
C'est la rareté des produits qui domine. Hein.
Tout à fait, tout à fait. En plus, dans le 19e, 20e, on a des quartiers qui sont en plein essor. On a même des quartiers qui se prêtent un peu aux deux, hein, parce qu'on voit aussi autour des Buttes-Chaumont qui est aussi très touristique et qui commence à attirer une clientèle internationale, parce que sur Paris, on a des beaux parcs, on a le Jardin du Luxembourg, on a le parc Monceau, mais on a aussi le parc des Buttes-Chaumont qui est dans l'Est parisien une référence et qui attire différents types d'investisseurs. Alors les investisseurs de Airbnb, de location meublée touristique d'un côté, mais on reste tout de même sur des investissements aussi traditionnels, puisque par rapport au troisième, qui est déjà un prix assez haut.
Ça reste encore abordable.
Ça reste encore abordable et il y a surtout encore une marge de progression à prévoir.
Alors, vous êtes dans le 19e arrondissement, mais aussi dans le 20e. Il y a un quartier du 19e et du 20e qui se développe de plus en plus, notamment le quartier Saint-Fargeau, jusqu'à la rue d'Avron, qui étaient des quartiers un peu compliqués, hein, la rue des Orteaux, un peu voilà, avec des cités. Est-ce que ces quartiers-là sont en émergence et donnent la possibilité à certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un mètre carré dans le troisième, de pouvoir quand même habiter dans Paris?
Bien, c'est tout naturellement, en fait, notre stratégie que vous mettez en avant là, c'est qu'on a ouvert dans le troisième arrondissement, mais on s'est aperçu que beaucoup de personnes qui vendaient dans le troisième ou qui étaient locataires dans le troisième ne pouvaient pas acheter dans ce quartier-là, ne pouvaient pas rester dans ce quartier-là. Et c'est là que naturellement, le 19e et 20e se sont imposés comme des arrondissements de référence pour ces gens-là, pour avoir une pièce en plus, même à la location, pour avoir une pièce en plus.
C'est
ou même
quoi,
juste...
c'est les marchés de report?
Tout à fait, c'est un marché de report, mais plus uniquement aujourd'hui, attention, parce que quand même, la progression de ces arrondissements-là a beaucoup augmenté, et Paris reste quand même une ville.
Alors, pour mon information personnelle, 19e, 20e, prix moyen au mètre carré?
Prix moyen au mètre carré, on est autour des 8 à 9 000 euros du mètre carré, 8 500 euros du mètre carré, je dirais.
Ah oui, donc ça reste encore...
Ça reste encore abordable, parce qu'il y a ce sont des micro-quartiers. La chance du 19e, 20e, c'est qu'on peut, même dans la même rue, vous ne pouvez pas vendre au même prix.
Oui, oui. Guillaume ?
Je reboucle sur l'investisseur. Disais, il y a dans les 19e, à la différence du 3e, il n'y a pas que des investisseurs en Airbnb. Au contraire, il y a des investisseurs pour faire plein d'autres choses, du meublé ou de la location classique.
Tout à fait.
Avec quelle rentabilité?
On reste autour des 3%, 3-4% des rentabilités, disons, assez traditionnelles sur Paris, où là-bas, on ne cherche pas, comme le Airbnb, une très grosse rentabilité.
Mais bien sûr.
On cherche plutôt la progression, l'émergence, comme le disait Sylvain. Ce sont des quartiers en pleine émergence. Vont encore progresser. On parlait du lien social qui a peut-être disparu dans certains quartiers du 3e, mais qui sont peut-être justement bien solidifiés dans le 3e.
Dans ces quartiers,
ce que vous dites est fondamental, c'est d'ailleurs la tendance, et c'est vrai que chez Orpi, vous êtes même très bon sur la question pour la revitalisation des quartiers des centres-bourgs. Juste une dernière question, la conclusion, il n'y a plus de location vide aujourd'hui, elles sont forcément meublées sur des petites tailles.
Alors, sur des petites
plus
tailles.
Dans Paris.
Oui, sur des petites tailles, ça devient un peu plus rare. Alors, déjà, parce qu'en termes de fiscalité, la location meublée non professionnelle est intéressante et est l'option la plus utilisée. Et puis, disons que ce sont des biens qui sont aussi des investissements liquides. Donc, les gens veulent les acheter, mettre en location à temps. Et puis en cas de coup dur, on voit en ce moment qu'on parle beaucoup des retraites. Donc il faut quand même penser à la capitalisation.
C'est de l'argent qu'on met au coffre-fort dans l'appartement.
Tout à fait.
On est sûr de le retrouver. Hein.
Exactement. Exactement. Et puis si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale encore, c'est un moyen de faire un petit investissement locatif.
C'est même plus sûr que la banque. D'ailleurs, au lieu d'aller à la banque, on va voir Sacha Arroche.
Exactement. Au plaisir.
Merci beaucoup, Sacha.
Merci
Sacha Arroche, je rappelle qu'avec votre frère, le bien nommé, vous êtes dans le 3e, 19e et 20e arrondissement. Il n'y a pas photo, c'est là-bas qu'il faut aller si on veut investir dans ces trois arrondissements. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Revenez
Merci
chez nous, ça nous fera extrêmement
Avec
plaisir.
Plaisir.
Et surtout, si je peux me permettre, allez sur Instagram et sur LinkedIn voir les vidéos de
les
mise en
vente de
des biens d'Orpi dans le 3e, le 19e et le 20e par Sacha Arroche et son frère. C'est un morceau d'anthologie. Merci d'avoir
Merci
passé.
À vous.
Voilà, Orpi Territoire, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain avec une autre séquence puisqu'on fait le Tour de France avec nos amis d'Orpi. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre programme.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Et rebonjour les amis, voilà, ça vous concerne, seconde partie. On va parler avec notre avocat préféré pour le droit immobilier, avec Romain Rossilandi. Bonjour Romain.
Bonjour.
Et toujours l'ami Vincent. Ça va Vincent ?
Ça va très bien.
Alors on a une question de Vincent pour Vincent.
Exactement, Vincent et son frère qui nous ont posé une question sur le groupe Facebook Le Club des Proprios.
Vincent,
oui.
François, Paul et les autres.
Ils sont dans un avion, c'est ça ?
Non, vous êtes trop jeune, okay. C'est dit d'un film.
Non, j'ai reconnu le film, bien sûr.
Voilà.
Vincent et son frère ont hérité de la maison de leur père, récemment décédé. Lorsqu'ils se sont rendus sur place pour la vider, ils ont constaté que la serrure avait été changée et que la maison était habitée. Probablement par des squatteurs qui refusent de les laisser entrer, ils sont allés porter plainte à la gendarmerie. Les gendarmes leur ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'il fallait saisir le tribunal. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qu'il faut faire pour Vincent et son frère ?
Alors ça, je le vois souvent dans les dossiers, c'est complètement faux. Il y a une croyance, effectivement, des gendarmes, de la police en général, c'est que quand il y a un squatteur, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas intervenir. Là, je pense que vos auditeurs vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une procédure accélérée, une procédure administrative accélérée, qui n'est pas confiée au juge, mais confiée au préfet. Et ça, c'est uniquement valable pour le squat. Donc, il faut porter plainte, c'est ce qu'ils ont fait, mais pour violation de domicile, ça c'est la première condition. Justifier qu'on est propriétaire. Donc ça, c'est pas très compliqué, encore que parfois certains gendarmes ou policiers vous demandent votre acte authentique, l'acte notarié que vous n'avez pas forcément sur vous. Donc c'est parfois un peu compliqué de pouvoir démontrer que vous êtes propriétaire. Donc normalement, il y a eu des circulaires aussi en ce sens pour faciliter la tâche du propriétaire. Et la troisième condition qui est un peu parfois compliquée à obtenir, c'est que un OPJ, un officier de police judiciaire, doit venir constater lui-même le squat, l'infraction. Une fois que vous avez ces trois conditions, vous pouvez saisir le préfet et vous lui demandez le concours de la force publique directement, sans passer par la case tribunal.
Combien
le préfet, il a 48 heures pour vous répondre. Donc c'est extrêmement rapide.
Et s'il ne répond pas ?
Alors, normalement, il doit répondre. Depuis, ça, c'est en fait ce texte. C'est un texte qui a été sorti un peu des tiroirs par le gouvernement suite à un certain nombre d'affaires très médiatiques qui ont poussé le gouvernement à sortir l'article 38 de la loi Dalloz. Et donc, ça fonctionne bien. Moi, j'en ai eu beaucoup. Alors, en fait, dans la pratique, ça ne fonctionne pas en 48 heures. Moi, je ne l'ai jamais eu en 48 heures. À Paris, c'est 10-12 jours. Mais 10-12 jours, c'est extrêmement rapide par rapport à une procédure judiciaire qui va durer 18 mois.
Mais est-ce qu'ils vont jusqu'à l'expulsion ?
Oui. La réponse est oui. Certains préfets sont récalcitrants. J'en ai eu dans le Val-de-Marne, j'en ai eu en Seine-Saint-Denis. Maintenant, c'est une procédure qui est nouvelle, donc qui n'était pas du tout utilisée. Et donc, je pense que les préfets commencent à se l'approprier. Il faudrait aussi que les forces de l'ordre, au niveau gendarmerie, etc., le fassent, parce qu'effectivement, ce n'est pas normal de dire à vos auditeurs on ne peut rien faire, circuler, aller saisir le tribunal. Donc, cette procédure, article 38, fonctionne. Encore faut-il la connaître. Et encore faut-il surtout que... Voilà.
Et elle évite de passer par la case tribunal.
Ben, elle évite de passer par la case tribunal, bien sûr. C'est ça tout l'intérêt. Parce que sinon, vous faites une procédure qui est la même que vous faites pour un locataire qui ne paye pas.
Et il y en a pour 18 mois. Quoi.
Et il y en a à peu près pour 18 mois. Et à la fin, de toute façon, c'est toujours le préfet qui doit accorder le concours de la force publique. Donc cette procédure, quand vous avez des squatteurs, réflexe à avoir, on porte plainte tout de suite pour violation de domicile. Pas pour autre chose, parce que parfois, ils prennent votre plainte, ils vous mettent détérioration, vandalisme. Non, ça ne fonctionnera pas. Il faut une plainte pour violation de domicile. Ensuite, demander à ce que l'OPJ se déplace. Ça, c'est parfois compliqué. Il y en a qui ne veulent pas se déplacer.
Encore faut-il qu'il se déplace.
Il doit se déplacer. Au moins qu'il dit, c'est le ministre qui a dit à plusieurs reprises, l'OPJ doit se déplacer. Donc parfois, il ne se déplace pas. Donc là, c'est compliqué. Donc il faut effectivement insister lourdement. Mais une fois qu'il s'est déplacé, là, vous avez toutes les conditions. Alors si jamais il ne se déplace pas, l'OPJ, moi j'ai eu le cas, on peut, dans certains cas, faire venir un huissier qui fait ce qu'on appelle un constat d'occupation illicite. Donc les huissiers ont communiqué là-dessus en disant on peut le faire. Et bon, alors normalement le texte prévoit que c'est un constat de l'OPJ, mais a priori certains préfets s'accommodent d'un simple constat d'huissier. Donc si vous n'avez pas le constat de l'OPJ, vous faites venir l'huissier et ensuite vous saisissez par lettre recommandée le préfet. Vous lui dites article 38, je demande le concours de la force publique pour évacuer mes squatteurs. Et là, le préfet, normalement, dispose d'un délai de 48 heures pour vous répondre, donc c'est un peu plus long, mais ça fonctionne assez bien.
Un peu plus long, donc si ça dépasse les 48 heures, c'est pas grave.
Non, alors ça aussi, c'est une fausse croyance qu'on voit souvent. Il y a eu tout un tas d'affaires où la police disait « mais je peux pas prendre votre plainte, ça fait plus de 48 heures qu'ils sont dans les lieux ». Ça aussi, c'est faux, archi faux, je me bats depuis des années pour dénoncer ça. Le squat, c'est une infraction à la fois instantanée, effectivement, le fait de rentrer chez vous par effraction, donc c'est toujours, c'est ça le squat.
Hein, ouais, c'est une violation de domicile. Hein,
c'est c'est une violation de domicile. On rentre chez vous par effraction, on change les serrures, là c'est exactement le cas. Oui, mais c'est aussi une infraction continue qui se renouvelle chaque jour, puisqu'on se maintient chez vous illégalement, vous comprenez ? Donc elle se renouvelle tous les jours. Donc il n'y a pas de flagrant délit. On peut très bien porter plainte après 3 semaines, après mais un mois, après 3 ans.
D'où sort-il cette idée des 48 heures ?
Alors c'est une fausse croyance, c'était même un moment sur le site service public. Moi je l'ai vu ça. C'est une fausse pratique.
Aujourd'hui on a toute la réglementation, l'arsenal, pour arriver à procéder à une expulsion quand expulsion, quand squat
Petit bémol quand même, il y a eu une récente loi là encore qui est en discussion en deuxième lecture au Sénat, qui a été proposée par le député Kasbarian, qui est président de la commission des affaires économiques. Moi j'avais été auditionné à l'époque, donc j'ai suivi ça de près.
Sur le droit de propriété. Ouais.
Exactement.
Elle a fait couler beaucoup d'encre,
donc là sur l'article 38, ils vont encore faciliter, élargir le champ d'application de l'article 38. Il y avait déjà eu la résidence principale, la résidence secondaire. Maintenant, ce sera tous les locaux, même les locaux qui n'ont jamais été habités, parce qu'il y avait beaucoup de cas. On aurait pu avoir ça pour vos auditeurs, ils vont dire ça n'a jamais été votre domicile, c'était le domicile de votre père défunt. Voilà. Donc on avait encore des cas
et
un peu comme ça.
Ça peut être aussi un logement vacant.
C'était le problème. Et donc avec cette nouvelle loi qui devrait être adoptée, parce que ça fait plutôt l'unanimité, le squat, il n'y aura plus ce débat. En fait, la difficulté juridique qu'on avait, c'est que ça protégeait le domicile et pas la propriété. C'était ça la difficulté. Donc normalement, on devrait régler ce problème-là et l'article 38 devrait être amené à être utilisé de plus en plus. Il faut le faire. Il a fallu
avoir toutes ces affaires médiatiques, notamment, je me rappelle, un couple de retraités. Ça avait été vraiment.
À Théoule-sur-Mer.
À Théoule-sur-Mer, ça avait été vraiment emblématique. Mmh. Et puis, même une personne qui s'inscrivait sur un site de Airbnb, qui prenait les clics, qui ne repartait pas, notamment, ça a été le cas à plusieurs reprises.
Ça, c'est une arnaque assez fréquente. Là, l'arnaque qu'on voit en ce moment, c'est. Un squat, mais en fait, pour éviter l'article 38, l'évacuation, c'est qu'on présente un faux bail.
Alors, on a un jugement d'expulsion pour Marilène.
C'est une question de Marilène qui, après une longue procédure, a obtenu enfin un jugement d'expulsion contre ses locataires mauvais payeurs en novembre 2022. Ils lui doivent quand même plus de 30 000 euros au titre des loyers impayés. C'est pas rien. Alors, à l'issue de la trêve hivernale en avril 2023, les locataires se maintiennent toujours dans les lieux et le préfet n'a toujours pas accordé le concours de la force publique.
Encore lui.
Qu'est-ce que peut faire Marilène ?
Bis repetita. Hein.
Alors, c'est toujours le préfet, hein, dans tous les dossiers d'expulsion, que ce soit locataire ou squatteur, c'est toujours à la fin le préfet qui a le dernier mot.
Qui prend la décision.
Donc là, on a une décision de justice, si je comprends bien, qui est définitive, qui a condamné les locataires à partir et à payer. La trêve hivernale est terminée, donc normalement, ils doivent libérer les lieux. Donc ce qu'il faut faire, parce que c'est au niveau de la préfecture que ça se passe aujourd'hui, c'est activer, évidemment, le préfet. Donc normalement, l'huissier de cette dame, de Marilène, a dû requérir le concours de la force publique. Et là, le préfet a 2 mois pour vous répondre. S'il ne répond pas au bout de 2 mois, ça vaut ce qu'on appelle une décision implicite de rejet, c'est donc un refus. Je n'agis pas. Donc là, ce que je conseille à votre auditrice, et je le conseille à tous mes clients, c'est de faire ce qu'on appelle un recours indemnitaire auprès du préfet. C'est assez facile. Nous, on s'en occupe très régulièrement. En fait, le principe, c'est que l'État refuse d'exécuter une décision de justice. Donc l'État engage automatiquement sa responsabilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le code de procédure civile d'exécution. Donc il y a un texte qui prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice, ce qui est le cas. Donc quand on fait un recours indemnitaire, premier avantage, on est indemnisé. Donc elle va percevoir pas les 30 000 euros qu'on lui doit, mais toute la période postérieure jusqu'à la libération des lieux, c'est-à-dire les indemnités d'occupation, qui ont été fixées certainement dans le jugement. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va accélérer le processus d'expulsion, parce que le préfet va traiter évidemment en priorité les dossiers qui coûtent de l'argent, où il y a eu des recours indemnitaires que ceux où les gens n'ont rien fait.
Vous voulez dire que l'État serait appelé au paiement ?
Oui.
D'indemnité.
Et ça fonctionne
parce
très
qu'il
bien.
Engage sa responsabilité.
J'obtiens très régulièrement de très. Là, j'ai un dossier.
C'est incroyable.
Accrochez-vous. C'est dans le Val-de-Marne. Ça fait 3 ans que mon client attendait l'exécution de son jugement. J'ai donc fait le calcul. Il y en avait pour 45 000 euros depuis le refus de concours de force publique il y a 3 ans. Et donc l'État m'a fait un chèque de 45 000 euros. Il n'a toujours pas expulsé. Alors mon client là, il dort un peu mieux maintenant qu'il a touché ses 45 000 euros. Mais il a quand même envie de récupérer un jour son bien. Et donc là, je vais refaire un recours complémentaire pour que l'État me donne le solde jusqu'à ce qu'il y ait une libération des lieux.
Hallucinant.
Et donc ça fonctionne. Peut accélérer. Ça va accélérer.
Bien, alors là, ça n'a pas accéléré, mauvais exemple de ma part, mais normalement ça accélère parce que évidemment c'est facile à comprendre. L'État, ils vont traiter à la préfecture les dossiers en priorité qui coûtent de l'argent que ceux qui coûtent rien.
Mais comment vous faites payer ? Vous faites payer par qui ? C'est le Trésor public qui vous paye ?
Alors c'est une très bonne question que j'avais posée effectivement. Il y a des fonds. Qui sont alloués spécialement, et apparemment il n'y a plus assez de fonds évidemment dans chaque préfecture, tous les ans pour indemniser les propriétaires qui sont victimes de refus de concours de force publique. Je précise une chose, normalement ça se fait assez facilement, moi je fais un recours et dans la foulée la préfecture me propose un protocole et avec le montant des sommes qu'ils proposent. Si jamais ils refusent de m'accorder cette indemnité, alors qu'ils doivent le faire, c'est écrit noir sur blanc, on a des recours devant le tribunal administratif, qu'on gagne à 100%. Mais là, c'est évidemment... Avant, on le faisait quasiment systématiquement. Maintenant, il y a une politique quand même qui est d'indemniser plus facilement les propriétaires. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce recours indemnitaire et qui ne le font pas. Qui savent qu'ils n'ont pas l'idée de le faire. Ils ne pensent pas à l'intérêt que ça peut avoir d'accélérer effectivement cette
Donc
procédure.
Donc en fait, ça fait bouger les lignes de la préfecture dès lors qu'on leur dit qu'ils sentent qu'il y a un recours indemnitaire. Parce qu'ils seront les payeurs in fine. Quoi.
Évidemment. Et ça marche à tous les coups. Hein.
C'est le mot-clé pour Marilène. Donc, recours indemnitaire. Et pour Vincent, juste avant, porter plainte pour violation de domicile. Voilà, vous retrouvez toutes les bonnes réponses sur le podcast, bien sûr. Merci beaucoup, Romain Rossi-Landy. On retrouve aussi tous vos bons conseils dans votre cabinet. C'est rossi-landyavocat.fr pour trouver un bon avocat.
Merci Vincent, merci Romain. On se retrouve pour la suite de notre programme dans le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est pour vous.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Voilà les grands témoins. Deuxième partie, nous sommes toujours avec Olivier Landrevi, président de CAFPI. Rebonjour Olivier, ainsi que Guillaume Autier. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, président exécutif de Meilleur Taux. Guillaume, on continue à faire le point sur les crédits et sur les prêts. Et surtout, on veut dire à nos amis qui nous écoutent, quels sont les bons tuyaux, les bons conseils pour essayer d'améliorer, si on peut,
la situation.
Sa solvabilité.
Sa solvabilité.
Et c'est pas neutre, parce que le logement, c'est un vrai sujet.
Et il y en a une qui nous vient comme ça d'évidence, c'est le prêt à taux zéro. On a envie de se dire que plus que jamais, il redevient intéressant, si tant est qu'il n'était plus. On va refaire un point sur ce prêt à taux zéro, si vous voulez bien, dans l'ancien notamment. Quels sont aujourd'hui les profils qui peuvent en profiter et avec quels bénéfices ?
Alors, tout d'abord, il faut être primo-accédant. Il faut acquérir dans le neuf, dans le logement social, ou dans l'ancien, mais avec des conditions drastiques pour ce qui concerne...
Dans l'ancien, ça reste toujours compliqué, quoi.
Ça a été réduit depuis 2019. C'est seulement sur certaines zones en France...
Il y en a même qui disent que le prêt au zéro est condamné à terme, comme le dispositif
fiscal. Quelles sont les règles ?
Seulement certaines zones en France, et il faut que votre projet inclue au moins 25% de travaux, ce qui est quand même beaucoup, pour que ça rentre dans les clous. Et c'est évidemment soumis à des plafonds de revenus qui sont relativement bas. Pour une personne seule, pour un célibataire, ça va de 24 000 euros à 37 000 euros de revenus nets selon les zones en France. Et pour une famille de 4 personnes, ça va de 48 000 à 74 000 euros nets. Voilà, ce qu'on peut regretter... C'est effectivement que depuis 2019, le PTZ ne fait que...
Être raboté.
Les volumes ont baissé de 30% par rapport à ce que c'était en 2019. C'est lié à deux choses. C'est lié notamment aux restrictions qui ont été mises sur la possibilité de l'utiliser dans l'ancien. Mais c'est lié aussi, ça c'est plus sournois, au fait que les plafonds de revenus et les plafonds de montants n'ont plus été révisés depuis 2016. Et donc, avec les années qui passent et les effets de l'inflation, il y a de moins en moins de Français qui peuvent en bénéficier. Et du coup, je fais moi-même la transition. Au-delà de la reconduction du dispositif qui a été plus ou moins annoncé par la Première ministre il y a une quinzaine de jours, Moi, je pense que le dispositif mérite d'être rafraîchi,
nettoyé,
et à minima réindexé pour retrouver sa pertinence.
D'ailleurs, dans les conclusions reportées du Conseil national de refondation, on a trouvé mieux, puisque le président de la République a dit maintenant on va faire une conférence des partis. Donc encore un rapport et encore une conférence de plus. Bref.
Vous vouliez rajouter quelque chose sur le...
Sur le PTZ, qui n'a cessé d'être raboté, certains pensent effectivement que dans sa formule actuelle, il est plus adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, à part le PTZ, on a d'autres possibilités pour essayer d'améliorer sa solvabilité, Guillaume Mottier?
Alors, j'ai pas grand-chose à modifier à ce qu'a dit Olivier. Je pense que, d'ailleurs, le côté non indexé de certains plafonds, c'est quelque chose qui s'applique aussi à d'autres éléments. Pour en parler, ça va un peu au-delà de notre thème d'aujourd'hui, mais notamment Moneyvox, un de vos confrères, a fait un article sur la liste de tous les seuils qui n'ont pas été indexés depuis plusieurs années. Il y a par exemple le livret A, vous voyez, c'est intéressant. Et donc, je pense que ce que vient de dire Olivier, qui est très pertinent, pourrait s'étendre. De façon générale, nous, avec notre casquette de citoyen, je dirais, on dit aussi que le PTZ n'est pas un dispositif gratuit. Il y a quand même bien quelqu'un qui paye. Donc, c'est clair qu'il faut des incitations de ce type. On voit que la tendance quand même de long terme, c'est de le réorienter vers le développement durable, la logique de travaux, l'amélioration énergétique.
Bien sûr.
Finalement, c'est une orientation politique. On peut la respecter, mais qui dit orientation politique dit critères et dit forcément aspect un petit peu plus restrictif. Et de nouveau, il y a bien quelqu'un qui paye. D'où le fait que faut probablement prendre un pas de recul et se dire... Pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent, il n'y a pas que le PTZ dans la vie, notamment les conditions de ressources dont vient parler Olivier, c'est quelque chose qui est assez restrictif. Donc à quoi on peut penser et qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on met le maximum de chances de son côté? Alors d'abord, sous forme de dispositif un peu d'aide et dérogatoire, il peut y avoir des PTZ entre guillemets locaux. Et notamment dans les entreprises, parfois, il y a eu plusieurs annonces de ce type. Hein, les employeurs eux-mêmes font des partenariats. Ouais. Et ça, effectivement, la meilleure façon, quand on est emprunteur, de mettre toutes les chances de son côté, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît localement tous ces dispositifs. Et c'est pour ça qu'Olivier et moi, nous avons des réseaux de gens qui sont implantés localement. Parce que l'un de leurs métiers, c'est d'être très au courant de ce qui se passe sur leur région. Parce que ça peut être des offres bancaires, ça peut être des dispositifs publics, ou ça peut être des dispositifs privés. Avec des employeurs qui
Action
financent.
Logement, par exemple, avait proposé un crédit de 40 000 euros
tout à fait,
pour les primo-accédants.
Avec des critères de revenus qui sont sensiblement supérieurs à ceux du PTZ.
Ça a beaucoup aidé, absolument. Voilà, ce qui revient même à être une forme de prêt à taux zéro, entre guillemets, sans faire passer par les fourches codines.
Donc
de
vous, j'imagine que vous vous informez, vos
c'est
clients
très important,
là-dessus.
Cette mission d'information, elle est très importante, bien sûr.
Et il y a aussi, on en parlait un petit peu hors micro avec l'un de vous deux, il y a l'ANIL qui référence...
Qui centralise l'information
tous
sur
les prêts que vous pouvez solliciter dans vos régions.
Les prêts et les subventions.
Les prêts et les subventions, vous dites. Oui. Et donc, on peut aller taper dans sa région, son département et voir si on
peut
avoir...
Donc les mandataires Meilleur Taux et CAFPI sont affûtés sur ce type de connaissances.
Franchiser Meilleur Taux et les mandataires. Voilà, c'est leur métier de connaître ces dispositifs. Et la mission d'information, elle fait effectivement totalement partie de notre ADN.
Ils sont cumulables, ces prêts En règle générale, vous avez regardé un petit peu
Dans certains cas, notamment sur l'amélioration de l'habitat, on peut dire que tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a MaPrimeRénov, qui est un dispositif un peu tiroir, un peu attrape-tout. Et en effet, la première chose à faire, c'est de prendre de l'information et d'avoir une vision large. C'est-à-dire, aller voir son banquier, c'est très bien. Mais il faut avoir quelqu'un qui est un spécialiste de l'ensemble du secteur. Le deuxième élément, je pense qu'il faut dire, c'est que, on en parlait il y a un instant, dans la première partie. En termes de profil, il est clair que ce qu'on pouvait avoir en tête il y a 2 ans, qui est la possibilité d'emprunter sans apport, sans épargne, c'est quasiment plus vrai du tout aujourd'hui. Il est clair que pour mettre toutes les chances de son côté, il faut de l'apport, je dirais minimum 10%. Et même si on a 20%, c'est plutôt mieux. Ça, c'est vraiment les nouvelles règles du jeu. Et comme ça a changé très vite, il faut vraiment les avoir en tête. L'autre chose qu'on voit aussi et que les banques regardent beaucoup, c'est l'épargne résiduelle. On voit que quand on emmène un dossier, quand on emmène un client et qu'on l'apporte à une banque, de plus en plus cette question, quelle est l'épargne résiduelle du client, est de plus en plus importante. Et donc cette capacité au fond à réfléchir au-delà du crédit, elle joue un rôle de plus en plus important. Et puis troisièmement, il y a des éléments un peu techniques, c'est-à-dire on a parlé il y a un instant de normes sur le taux d'endettement, ce fameux 35% assurance comprise. Et là, c'est clair qu'il y a plusieurs leviers, alors on va dire assez techniques, qui permettent d'optimiser le taux d'endettement. Déjà, un élément assez simple et qui est assez paradoxal, c'est d'allonger un peu la durée du prêt. Quand on allonge un petit peu la durée du prêt, normalement, on réduit le taux d'endettement. Ce n'est pas l'objectif des pouvoirs publics. On va dire que c'est l'un des effets de cette norme.
Bien
Deuxièmement,
sûr.
Il y a la délégation d'assurance. Et puis troisièmement, pour les gens qui sont déjà propriétaires et qui utilisent leur logement pour refinancer un nouveau logement, eh bien, il y a des solutions notamment qui consistent à ne pas recourir au prêt relais. C'est clair que le prêt relais, eh bien, il va coûter assez cher, il va peser assez lourd dans le taux d'endettement. Donc si on peut s'en passer par exemple en vendant par anticipation son logement, eh bien, on optimise aussi son taux d'endettement. Donc il y a plusieurs solutions.
On va séquencer, il y a encore deux points, vous venez de les citer. L'assurance, vous en avez parlé, on clôturera là-dessus.
Très bien.
Je voudrais quand même dire, est-ce qu'il y a des montages de crédit qui permettent de faciliter l'accès à la solvabilité, améliorer la solvabilité. Vous l'avez dit, l'allongement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Alors, je vais rebondir sur un des points que Guillaume a évoqué. Dans le cas de ménages qui ont un endettement préexistant, et plutôt sur des formats de dette courte, il vous reste un an à rembourser sur votre voiture, il vous reste un crédit revolving. Bon. Ça peut être très handicapant pour présenter le dossier sur l'acquisition de votre résidence principale auprès d'une banque, parce que ces queues de crédit qu'il vous reste peuvent du coup vous emmener au-dessus de 35% de taux d'endettement, puisque le taux d'endettement n'est calculé qu'au premier jour. Ce qui est un peu d'ailleurs un peu absurde, mais bon. Donc il y a une technique quand on est face à ce type de client pour
racheter.
En fait commencer par faire racheter ce crédit-là et le remettre sur une durée plus longue pour retrouver de la capacité
d'où l'intérêt d'avoir un bon courtier, je vous le dis les amis, parce que effectivement cette logique, souvent les courtiers l'ont et pas forcément les banquiers naturels.
Et là, ça
peut être d'ailleurs un montage de regroupement de crédit. C'est possible de le faire en une seule opération.
Donc ça, vous le pratiquez,
bien sûr,
en ce moment.
Bien sûr.
L'allongement, vous en parliez, ça peut monter jusqu'à combien ? 25 ans ?
25 ans, c'est de toute façon la nouvelle norme qui est imposée par le HSF. Mais si on est au-dessus de 35% à 15 ans, c'est clair qu'aller à 20 ans, sachant qu'on ne restera pas toujours avec le crédit pendant 20 ans. Si on change d'appartement, de maison, on soldera par anticipation, mais ça permet d'avoir son crédit. La logique, c'est comment être éligible, comment avoir accès au crédit, et parfois partir sur une durée un peu plus longue, et ben c'est nécessaire pour respecter, comme l'a dit Olivier, la norme au premier jour.
Est-ce qu'il y a des montages sur plusieurs durées aussi ? On pourrait faire une partie du capital emprunté sur 15 ans, donc avec un taux moindre, vous voyez ce que je veux dire ?
Ou même, pour compléter la question de Guillaume, c'est une question qu'on nous pose aussi, les particuliers, c'est les acquisitions en SCI. Est-ce qu'elles échappent à ce type de ratio ou pas ?
Si on est vraiment sur une SCI à usage professionnel, donc avec que du locatif, idéalement une SCI à l'IS, donc c'est lourd sur le plan comptable, etc., et fiscal. Mais oui, à ce moment-là, on peut échapper à la fois au taux d'usure tel qu'on le connaît, et aux normes HCSF.
Ça veut dire qu'on n'est plus tributaire des conditions de ressources pour l'emprunt ou pas ? Donc quelqu'un qui a une SCI à l'IS,
la banque va quand même regarder les ressources de l'emprunteur.
Il a 10 ou 20%
mais la banque est libre d'évaluer ce risque comme elle l'entend. Elle n'est plus dans le carcan HCSF. Okay.
Et si ce n'est pas l'IS, même topo ou pas ?
Non.
D'accord.
Dans ce cas-là, ce sont les normes particulières qui s'appliquent. Mais voyez, cet exemple-là montre bien le côté un peu absurde de ces règles.
Mais oui, bien sûr.
Dès lors qu'en faisant un montage, on se met à côté de la réglementation, ça prouve bien qu'une norme assez rigide, assez simple, n'a pas les effets escomptés. Il vaut mieux, de nouveau, on revient à cette logique, laisser les acteurs libres d'évaluer le risque.
Peut-être une dernière chose. Guillaume a parlé des exigences d'apport personnel.
Oui.
À minima 10% pour pouvoir discuter avec une banque, et idéalement 20%. Même en moyenne, on a maintenant passé la barre des 20%. Ça peut souvent venir des parents. On voit beaucoup de projets qui arrivent à se débloquer de cette façon-là, puisque vous savez qu'il y a maintenant un cadre fiscal très avantageux pour faire des donations parents-enfants.
Ouais.
Et c'est parfois comme ça qu'on arrive à solutionner des dossiers. Alors évidemment, c'est un facteur d'inégalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée. C'est triste, finalement.
Mais il va se communiquer, d'accord. On termine par l'assurance. Ça pèse, l'assurance dans le crédit, l'assurance du prêt immobilier. Est-ce qu'on arrive à négocier justement en amont plus facilement aujourd'hui cette assurance?
J'aimerais aussi compléter ce que dit Guillaume. L'épargne notamment, l'épargne pour les coûts énergétiques.
Alors,
dont on
d'abord l'assurance. Est-ce que l'assurance, on le sait, c'est quelque chose qu'on peut négocier d'entrée de jeu? On sait que c'est très difficile, c'est pour ça qu'on a fait des lois, la loi Hamon, etc., pour négocier après coup. Est-ce qu'on arrive mieux à la négocier en amont aujourd'hui pour faire baisser le coût de l'assurance, pour faire passer des dossiers ?
Quand on arrive avec un beau dossier et qu'on est un client à potentiel et qu'on fait comprendre au banquier qu'on a devant soi qu'on est au courant de ses droits et qu'on connaît la loi Lemoine, oui, il est redevenu possible de négocier. Non, 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 mais vraiment. C'est-à-dire, on voit beaucoup plus de banques qu'avant qui acceptent finalement de s'aligner
plutôt que de perdre
pour mettre leurs tarifs d'assurance à peu près au niveau du marché.
Ah d'accord.
Oui, ça, c'est intéressant. Face à des clients à potentiel. Hein, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde.
Je comprends.
Et qui font comprendre qu'ils connaissent leurs droits. Voilà.
C'est
mais
le boulot
mais
du courtier
dans le pire des cas, dans le pire des cas, même pour un client, on va dire, revenu plus modeste, qui ne se sent pas en situation de force et qui préfère ne pas mettre le sujet sur la table initialement, il reste la loi Lemoine à tout moment. Donc c'est quand même une avancée.
Ouais, mais bon, encore faut-il que j'ai pas accès à mon. C'est pas ça qui va me faire faciliter l'accès à mon dossier. Si je suis bloqué, si je passe pas d'entrée, la loi Lemoine, c'est je renégocierai a posteriori. Donc.
Là-dessus, je pense que ce que vient de dire Olivier est tout à fait exact. C'est-à-dire, je pense que la principale inégalité ou dichotomie dans ce marché, c'est un sujet d'information, de pédagogie. Et quand on fait le test autour de soi, moi, je suis frappé de voir à quel point il y a encore assez peu de gens qui connaissent tout simplement le principe très simple applicable à ce marché de l'assurance emprunteur, qui est la liberté totale au moment du crédit et après. Beaucoup de gens arrivent avec des idées dans la tête que c'est après un an ou avant un an. Et donc, en réalité, le vrai sujet, c'est d'arriver devant sa banque en connaissant le sujet, en étant bien informé. Et ça, en général, ça donne une capacité de négociation, d'autant que sur le sujet de l'assurance emprunteur, comme vous l'avez dit, c'est un élément qui est très important, on va dire, dans le coût total du crédit. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du TAEG. C'est important d'avoir une vision globale du coût. Et puis, deuxièmement, c'est important de bien choisir son assurance emprunteur, parce que revenons un peu aux principes fondamentaux, c'est d'abord un outil de protection. Et donc, il faut choisir les risques contre lesquels on est protégé. Et donc, ce sujet-là, il est au moins aussi important que le taux du crédit. Nous, on s'appelle meilleur taux, donc on ne va pas dire que le taux n'est pas important. Le taux, c'est évidemment important. Mais c'est un élément parmi d'autres. Quand on fait un crédit immobilier, vraiment, le message, c'est regardons tous les sujets. Regardons l'assurance, regardons la garantie. Et puis, regardons aussi la banque elle-même. Nous, on dit souvent, on ne vend pas un taux, on vend une banque. La banque dans laquelle on va domicilier ses salaires, les services de cette banque, il faut qu'on soit à l'aise avec. C'est très important.
Parce que quand on a le crédit, on est obligé de domicilier les salaires
dans la banque. Il y a quelques exceptions, mais de fait, en effet, on domicilie ses salaires. Et on peut comprendre pourquoi. La banque, finalement, va d'abord garantir le paiement du prêt par l'existence de ce revenu qui est domicilié chez elle.
Alors, la question sur l'analyse des banques, sur les coûts énergétiques, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'ils en tiennent compte ou pas?
En fait, ça rejoint le sujet qu'on a évoqué un peu plus tôt de l'épargne résiduelle. En fait, c'est pour cela que les banques deviennent gourmandes sur l'épargne résiduelle. C'est parce qu'elles ont conscience qu'avec la flambée des prix de l'alimentaire, de l'énergie, de tout ce qu'on veut, des clients pourraient, dans les mois qui viennent, se retrouver en difficulté sur le remboursement de leur crédit parce que le reste de leur budget a subi l'inflation. Donc, elles aiment voir idéalement l'équivalent d'un an de mensualité, ce qui fait quand même des sommes, sur des produits d'épargne débloquables relativement facilement.
Merci. Je pense que là-dessus, juste pour compléter, il y a deux éléments. Il y a un élément économique, en effet. Le fait de devoir mettre son logement aux normes, c'est un coût et donc les banques le prennent en compte. Et il y a aussi un élément, on va dire, d'image et de normes. C'est sûr qu'un organisme comme une banque va être de plus en plus challengé sur quel bien elle finance. Est-ce que ce sont des passoires thermiques ou est-ce que ce sont des biens aux normes? Et ça, ce sujet-là, la prise en compte de ce sujet-là ne va faire évidemment qu'augmenter dans les nouveaux
crédits. C'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés pour justement tous ces tuyaux avec toute la complexité que ça suscite. Et ça justifie d'ailleurs la raison pour laquelle il faut passer par des courtiers en crédit immobilier. Merci Guillaume Mottier, je rappelle que vous êtes le président exécutif de Meilleur Taux.
Merci Sylvain.
Merci également à Olivier Landreby, président de CAFPI, pour ses précieux conseils. Et bien évidemment, vous pouvez récupérer le podcast sur les plateformes qui vont bien.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Et bien voilà, c'est fini pour ce 49e numéro. Le mois de mai 2023, on va se retrouver pour la 50e. Et oui, déjà 50 numéros en juin prochain. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr podcaster ce numéro ainsi que les 48 autres, bien évidemment, sur les plateformes qui vont bien. Guillaume, on va se retrouver pour la 50e le mois prochain.
50 numéros déjà, et oui. 50 numéros, et ce sera aussi le dernier numéro de la saison. Et nous vous retrouverons avant de vous retrouver à la rentrée prochaine. Donc on vous réserve une petite surprise.
Voilà, une petite surprise. Et d'ailleurs, nous diffuserons cette émission le 16 juin, comme d'habitude, à 18h05 sur nos plateformes Radio Immo et sur capital.fr. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve ensemble le mois prochain.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Immo et Capital.